Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Et si on parlait ensemble aujourd'hui, émission spéciale avec des invités politiques où nous allons parler de l'intercommunalité, du désenclavement et des présidentielles. Je reçois aujourd'hui Colette Chariot qui est conseillère régionale de Europe Écologie Les Verts. Bonjour et
Bonjour.
merci d'accepter mon invitation. Et puis Philippe Béraud qui est maire adjoint délégué à l'action culturelle et à l'écologie urbaine. Bonjour Philippe.
Bonjour Jean.
Et merci d'être avec nous pour parler de trois sujets comme je vous le disais précédemment. Les présidentielles, on va le garder pour la fin. Hein, et puis on va parler aussi du désenclavement à la fin. On va parler dans un premier temps de l'intercommunalité avec le projet qu'il y a sur les communautés d'agglomération. On voit que sur Manosque, ça se passe relativement bien, puisqu'il y a un secteur de plus de 60 000 habitants dans le projet de l'intercommunalité de Manosque. On voit que sur Digne, c'est un peu plus compliqué, la mobilisation des élus. Beaucoup de conseils municipaux ont rejeté cette future agglomération de Digne du pays dinois. Comment se situe la ville de Digne et puis Europe Écologie Les Verts dans ce futur agglomération ?
Alors, moi je siège donc dans le cadre de la CDCI, la commission départementale pour le schéma intercommunal, et en qualité de conseillère régionale. Donc c'est vrai que je suis assez au fait de ce qui se passe aujourd'hui et des discussions qui ont lieu. Alors, quand vous dites un certain nombre de communes sur le pays dinois, sur le pôle dinois, hein, puisqu'aujourd'hui le département, globalement, la préfecture a proposé ce qu'elle appelle ses deux jambes sur les Alpes de Haute-Provence. Donc d'un côté, vous l'avez dit, la communauté d'agglos de Manosque et d'un autre côté, la communauté d'agglos de Digne, du pôle dinois. Et en fait, l'objectif, c'était de constituer une agglomération de 30 000 habitants de manière à pouvoir justement créer cette communauté d'agglos. Aujourd'hui, on a des résistances parce que il y a une moins bonne tradition à travailler en intercommunalité. Alors, moi aujourd'hui, en qualité de conseiller régional, siégeant dans cette CDCI, je milite réellement pour une communauté d'agglos, puisque on sait qu'on a un certain nombre de projets à défendre qui vont bien au-delà de nos petites intercommunalités rurales et qui sont d'intérêt général, tels que justement le projet de l'accessibilité, tels que la défense des services publics sur le territoire. Et si on veut réellement renforcer et donner une vraie identité à ce pôle dinois, il me semble en tout cas qu'on est obligé de passer par cette étape-là.
Est-ce que il y a une bonne information dans les élus ? Parce que à Manosque, on voit que ça marche. À Digne, il y a quand même certaines réticences. Est-ce que les élus sont bien informés des enjeux ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de perdre, je vais dire clairement les choses, le pouvoir de décision ou de majorité ou de siège par rapport à cette future agglomération ? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là ? Parce qu'on est très protectionniste sur ce que l'on a et on a peur de s'agrandir. On sait qu'il y a Champtercier et Aiglun qui ne font aujourd'hui toujours partie d'aucune communauté de communes. Donc comment vous le...
Alors, me semble-t-il, c'est vrai qu'il y a une vraie crainte de la part des élus locaux. Certains nous reprochent justement de faire abstraction d'eux. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les communautés de communes, elles sont au nombre de 5 sur le pôle dinois. Elles ont des budgets très faibles, très petits. Et par rapport à leurs compétences obligatoires, notamment le développement économique, on voit bien aujourd'hui qu'elles ne sont pas actives. Donc, quand elles nous disent qu'elles peuvent faire mieux que le projet de communauté d'agglomération, me semble-t-il, c'est un leurre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elles n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour monter un vrai projet de territoire et surtout le nombre d'habitants sur les communautés d'agglos. Si on prend le cas de Barème, si on prend le cas du pôle de Seine, à 3500 habitants aujourd'hui, il est difficile d'avoir l'ingénierie qui va avec une interco pour développer du vrai projet et engranger éventuellement des financements régionaux. Donc c'est vrai que les élus ont cette crainte-là parce que peut-être n'ont-ils pas suffisamment pratiqué les grandes intercos et peut-être n'ont-ils pas eu encore la démonstration de comment une grande interco peut servir l'ensemble d'un territoire et même les communes rurales et les habitants de ces communes rurales.
C'est surtout les petits villages de 50, 60, 100 habitants qui ont plus peut-être peur d'être mangés par tous ces villages plus importants et villes. Parce que Digne, il faut être clair aussi, la ville de Digne fait peur. On a peur que Digne tire les ficelles alors que ce n'est pas forcément vrai.
Mais on sait qu'on a besoin d'une ville centrale forte pour tirer aussi tout le monde. Et donc, chacun, autant le Digne a besoin des communes rurales pour un certain nombre de projets, et autant à l'inverse, on a besoin des uns des autres pour être plus fort, me semble-t-il.
Est-ce que cette communauté d'agglomération, lorsqu'elle sera bien installée, c'est pas la disparition des communes, ou avoir des communes avec des services minimums comme l'état civil, comme... Parce qu'au terme, ça va être ça, non ?
Non, mais moi, je crois qu'il y a des compétences qui restent les compétences des communes, d'une part, et puis d'autre part, il y a des compétences qui seront les compétences d'une communauté d'agglomération. Et Colette l'a bien situé, ces compétences, elles s'analysent au regard des enjeux qui doivent être conjugués collectivement sur un territoire. Si les compétences, les petites compétences, comme vous soulignez, que ce soit les écoles qui sont... quand même des grandes compétences, mais qui sont des compétences très locales où l'état civil resteront des compétences rurales ou urbaines. Les grandes compétences doivent absolument être partagées ensemble sur un territoire plus vaste, au regard de quoi on aura du mal à dégager des projets de développement économique sur un territoire comme celui de Digne. Et au-delà, il faut rappeler quand même qu'on parlait de la problématique posée par les communes, les petites communes ou moyennes communes, à accepter qu'une grande commune soit finalement le moteur de l'intercommunalité. Ça se fait généralement partout de la même façon, on le constate, et c'est absolument indispensable au regard de la réalité du terrain. 12 000 emplois sur Digne, c'est pas 12 000 Dinois qui travaillent sur Digne, chacun l'a compris, mais c'est des personnes, des habitants qui viennent des communes périphériques et qui viennent travailler sur Digne. La réalité, il faut aussi un moment la regarder en face, et on a cette capacité localement, mais avec bien évidemment cette grande communauté d'agglomération qui est absolument indispensable à proposer la logistique nécessaire pour développer des projets à l'échelle d'un territoire.
Alors on va en parler tout à l'heure de ce projet du désenclavement, parce que là peut-être l'Interco va avoir un rôle important. Avant d'en parler, on va juste faire le point. 60 000 d'un côté, 30 000 de l'autre. Donc si cette communauté d'agglo ne se fait pas sur Digne, on va être en déséquilibre avec le pôle manosquin.
Ou est-ce que...
Et là, alors, c'est on peut considérer la mort du pays dinois, ou en tout cas un sommeil.
Pourquoi faire moins bien que d'autres aujourd'hui ? Et Colette l'a rappelé, deux jambes sur ce département. Et effectivement, on a ce handicap, et le problème de l'accessibilité sera posé après. C'est qu'on a quand même une ouverture sur les autres territoires quand même beaucoup plus complexe au regard des voies de transport, des voies de communication que ne l'aurait Manosque avec d'autres villes et villages qui entourent cette grande cité. Donc ça serait être handicapé encore davantage en refusant une telle échelle de réunion et en restant sur ce qui irait en deçà d'une communauté d'agglomération. Et d'autre part, ce serait fermer la porte à des financements de l'État plus importants. Donc je crois qu'il faut avoir le courage d'assumer un saut quantitatif qui sera aussi un saut qualitatif pour aller vers une dimension qui donnera réellement à notre territoire les moyens de se développer.
Oui, moi je compléterais simplement pour dire que la communauté d'agglo, me semble-t-il, est réellement le futur pôle de développement, et qu'aujourd'hui, ce que nous devons créer, c'est la confiance pour une bonne gouvernance et une bonne fiscalité qui va être assurante pour les communes rurales qui nous entourent. Et c'est vrai que si nous n'y réussissons pas ce challenge, eh bien, il faut souhaiter qu'on ait une étape intermédiaire qui ne dure pas trop longtemps, parce que le grand risque aujourd'hui, c'est que toute cette partie du département s'appauvrisse, et on le voit bien aujourd'hui, les emplois, le nombre d'emplois décline, et ce serait dommage de ne pas dire on a une spécificité territoriale que nous devons défendre à côté du pôle de Durance. Il y a aussi un territoire rural qui a réellement des atouts et qu'il faut valoriser. Donc il faut surtout faire passer ce message de l'outil indispensable que va devenir la communauté d'agglo pour mener des projets à terme et des beaux projets en réalité avec ce territoire.
Donc la communauté d'agglo, le gros projet qu'elle aura à mener aussi, même si il a démarré déjà, c'est le désenclavement. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie aussi des choses à régler. On a parlé d'une autoroute, d'une deux fois deux voies, le désenclavement par le train. Où on en est actuellement ?
Enfin, ça a été bien dit, ça fait partie des choses à régler. Ça veut dire qu'elles ne sont pas réglées à l'heure actuelle. Voilà, et c'est un chantier qui est ouvert depuis 20 ans, qui a connu différentes péripéties. Aujourd'hui, il me semble qu'on est au bout du bout et qu'il apparaît, en tout cas pour certains élus, indispensable de réussir une vraie accessibilité sur notre territoire, et notamment l'accessibilité entre Digne et le Val de Durance. Cette accessibilité irriguera ensuite le reste du territoire. Elle ne peut pas se faire, elle ne peut pas se jouer uniquement sur la route. Mais elle doit se jouer à la fois sur la route et à la fois sur la réouverture de la ligne qui a été fermée il y a 20 ans, hein, de la ligne Digne-Saint-Auban. Quand on regarde la géographie du département, on se rend bien compte qu'il y a un axe, une colonne vertébrale réelle, mais qui est aujourd'hui coupée entre Nice, donc entre la Méditerranée et les Alpes de Haute-Provence et les Alpes d'une façon générale. Or, cette voie qui est en passe d'être une voie moderne aujourd'hui, et avec des moyens de transport quand même qui ont été très modernisés depuis quelques temps, s'arrête à Digne. Ce qui est une incongruité au regard de la capacité que l'on aurait à entraîner tout un flux d'activités si on pouvait raccorder légitimement la ville de Digne à la Durance. Ça, c'est pour la voie ferrée. On va y revenir après peut-être. Et puis évidemment, une route confortable hein, reliant les deux pôles, aujourd'hui la Durance et Digne. Il ne s'agit pas de rouler à 120 à l'heure, ni à 130. Il s'agit de rouler à 90 km/h sur une voie qui offre le maximum de sécurité aux usagers. Il n'y a pas 100 km à faire, il n'y a qu'une vingtaine de kilomètres. Il faut quand même relativiser l'importance du chantier.
Alors votre position à vous, Europe Écologie Les Verts, c'est quoi? C'est une deux fois deux voies alors?
Non, c'est, non, on confirme la décision qui a été prise par le conseil municipal de la ville de Digne, c'est-à-dire une amélioration de la RN 85. Avec les deux points noirs à travailler que sont Malmoisson et puis l'Aimé. Et pour le reste, Philippe Béraud l'a dit, il s'agit vraiment de sécuriser cette voie. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts se prononce aussi et fortement sur la réactivation de la ligne de chemin de fer. Évidemment, pour diverses raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit d'un transport en commun, donc qui préserve la planète du fait de sa moindre consommation d'énergie et qui ne pollue pas. Donc première raison d'ordre écologique. Deuxième raison, c'est qu'on a un vrai besoin d'accessibilité. Alors moi, je n'utilise pas le terme désenclavement parce qu'il me semble que nous ne sommes pas enclavés. Nous restons quand même un territoire accessible avec un peu plus de temps pour rejoindre l'autoroute. Et la voie de chemin de fer aujourd'hui, elle est un moyen à la fois de nous relier au Val de Durance et donc Aix-en-Provence et Marseille. Elle est un moyen de nous relier à Grenoble et donc les Alpes. Et elle est un moyen de desserte locale pour toutes les communes qui sont traversées par la ligne de chemin de fer. Et on a là à travailler un vrai projet de relier Château-Arnoux à Saint-Auban, de créer de la mobilité aussi pour les communes environnantes et tous les gens qui habiteront le long de cette voie. Et ça, c'est un deuxième point. Elle est aussi un outil au service des entreprises locales, puisqu'on sait bien aujourd'hui que quand même plus de 20% des gens ne disposent pas de voiture. De plus en plus de gens n'ont plus les moyens de disposer de deux voitures dans les ménages. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a une contrainte obligatoire d'utiliser les transports collectifs et que les entreprises seront gagnantes puisque si elles ont des salariés qui peuvent se déplacer facilement, eh bien c'est autant de facilité dans la gestion des emplois du temps. Et je pense que là aussi, on aura peut-être un jour aussi à travailler sur la question du fret parce que il y a beaucoup à faire sur le fret. Donc l'enjeu aujourd'hui sur la ligne de chemin de fer, c'est surtout de travailler à quel cadencement. Donc nous, on est engagés fermement et le conseil régional a pris acte de ce projet de réouverture. Des études viennent d'être terminées. On en engage juste une autre partie. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui s'inscrit bien dans un programme régional et qui va permettre de faire cette liaison qui sera très impactante en termes d'aménagement du territoire, comme l'a dit Philippe Béraud, entre Nice et Château-Arnoux.
Alors, il faut rappeler que la ligne des chemins de fer a été récupérée par la région il y a quelques années. C'est pour ça que la région est partie prenante aussi de ce projet-là. Est-ce qu'on a estimé un coût de cette réouverture?
Ben écoute, oui, pour le moment, on a un peu une idée. C'est vrai que, en tout cas, ça reste à définir précisément.
Parce que qui seront les financeurs en dehors de la région, qui sera peut-être le plus important? Le conseil général peut-être partira?
Oui.
Mettra de l'argent sur la table, la ville de Digne aussi peut-être.
Avec ses moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le projet sera inscrit dans le cadre du CPER, le contrat de projet État-Région, et ça veut dire qu'il y aura aussi un engagement de l'État sur cette question-là, qui permettra de réduire la participation des collectivités locales ici, que ce soit le Conseil général ou la ville, parce que bien sûr, c'est un projet de grande envergure, et je ne suis pas sûre qu'on soit capable, nous, d'intervenir de manière conséquente, en tout cas.
Alors, est-ce que ces problématiques-là, c'est dû à un fait que le pays dinois n'est pas un réel vecteur d'emploi, parce qu'il n'y a pas des entreprises qui s'installent sur notre territoire, alors que bon, sur Manosque, on sait pour l'instant les avantages qu'il y a grâce à ITER. Est-ce que parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui s'installent sur le pôle du pays dinois, c'est un peu plus compliqué de travailler cette problématique donc de l'interco, mais aussi, vous aimez pas trop qu'on dise, accessibilité, voilà, je vais essayer de le retenir, pour qu'on puisse travailler un peu plus facilement sur ce territoire-là. Ou est-ce que c'est faux de dire ça ?
Non, mais vous avez raison, mais une des conditions de la qualité de vie sur ce territoire, donc de l'attractivité de ce territoire, et Colette l'a bien dit, c'est d'améliorer l'accessibilité. On est en présence d'un moyen moderne qui est le train et d'un moyen quand même qui est aujourd'hui dépassé, qui s'avère dépassé, c'est quand même la voiture au regard du coût et de tous les problèmes que ça peut engendrer aujourd'hui. Le train, c'est le moyen moderne. Et ce qui est assez curieux, si vous voulez, c'est que la question semble se poser à Digne. Les Dinois se la posent parfois en disant « nous, on ne veut pas du train, on veut de la route ». Alors que partout ailleurs, en France, dans les régions, la question ne se pose pas. Ça veut dire que dans le Val-d'Urance, aller demander aujourd'hui à des habitants, à des élus qui habitent le long de la voie de chemin de fer, s'ils préfèrent la route ou chemin de fer. Pas du tout. Le choix qu'il est fait aujourd'hui, c'est le chemin de fer qui est privilégié parce que la maîtrise aussi des tarifs, la maîtrise de l'accessibilité au chemin de fer, donc au transport public, au TER, est de la compétence de la région.
De la région.
Les gens ne se débrouillent pas. Là. C'est la région qui met la main à la poche. Et de façon conséquente, il suffit de voir aujourd'hui le succès des nouvelles tarifications TER à l'égard des jeunes. Sur le territoire dinois, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui ne s'installe pas. Les entreprises s'installent sur le territoire dinois. Mais on n'a pas le même effet d'entraînement que Manosque, clairement, avec ITER, dont nous contestons d'ailleurs la réalisation. Mais par contre, reste à inventer un modèle de développement économique chez nous. Et la préfète, lorsqu'elle est arrivée à Digne, à juste titre, a dit que Digne, c'était avant tout un territoire de services. Et on a cette capacité à développer des services. Alors, il faut mettre de l'intelligence, justement, au regard de ce potentiel que l'on a sur ce territoire. Et là, on a beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à créer, mais beaucoup de possibilités de développement.
On a quand même des entreprises bien installées. On a aussi l'avantage d'avoir un IUT sur Digne, qui est quand même un vecteur d'approche de jeunes assez important. On a une école des beaux-arts. On a pas mal de choses qui se passent sur la ville de Digne. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a un travail à faire pour attirer de nouveaux secteurs d'activité ? On dit que Digne-les-Vins, c'est la ville des fonctionnaires. Est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui encore le cas ?
Vous avez décrit trois axes. Le tourisme, l'éducation, donc l'industrie du tourisme, je dirais, entre parenthèses, les services de l'éducation, mais aussi les services de la santé à travers le thermalisme et à travers la présence quand même d'un hôpital dont on ne conteste pas aujourd'hui la qualité des soins qui sont dispensés. Autour de ces trois axes, ou à partir de ces trois axes, on doit être en capacité, et quand je parle d'industrie du tourisme, il ne s'agit pas uniquement du tourisme patrimonial qu'on peut visiter sur Digne, il est intéressant aussi par ailleurs, mais il y a également tout le tourisme ludique et tourisme nature que l'on peut découvrir tout autour de Digne. Et on a les moyens aujourd'hui de développer de l'emploi et de l'activité, du tourisme culturel aussi.
Oui, moi je rajouterais simplement qu'on est sur deux formes de développement et nous ne revendiquons pas, enfin, en tout cas, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur Manosque et le pôle manosquin, je n'en vis pas aujourd'hui le développement qui s'y passe, puisque je constate qu'en fait, on est sur un développement de zones commerciales aujourd'hui qui sont peu productives d'emploi, qui dépensent et consomment beaucoup de foncier agricole, alors qu'il serait peut-être plus souhaitable de maintenir des exploitations agricoles et maraîchères, notamment sur ces territoires-là. Et que, me semble-t-il, Digne a vraiment un autre virage à prendre en matière de développement. Philippe Béraud l'a dit sur ces trois axes. Et je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas simplement dire de quelle manière on peut attirer, mais plutôt, ça serait de créer les conditions d'un développement endogène. Comment on peut donner envie à de la création d'activités? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le territoire des Alpes-de-Haute-Provence, c'est essentiellement des petites entreprises, très petites entreprises. Donc, on sait aujourd'hui que notre développement économique, il est en partie aussi basé sur un potentiel local. C'est comment produire de l'activité. Alors, elle peut être de toute nature. On sait aujourd'hui que l'économie verte, dite verte, est capable de produire de vrais emplois et qu'il y en a 400 000 qui sont annoncés dans les quelques années à venir sur le plan national et que Digne a vraiment cette capacité à développer cette nature d'emploi, étant donné le contexte environnemental et la qualité aujourd'hui de vie que nous pouvons avoir ici. Donc c'est plutôt être dans cette recherche, non pas de développer à nouveau des zones d'activité pour en faire aujourd'hui des zones commerciales comme ça se passe dans le Val de Durance, mais plutôt essayer de créer les conditions d'un développement endogène et d'accompagner les porteurs de projets locaux.
D'accord. Alors on arrive au terme de notre rendez-vous. On va vite parler des présidentielles de mai 2012. Votre sentiment sur les primaires du Parti Socialiste? On voit bien sûr la forte hausse de plus de 56% de François Hollande face à Martine Aubry, Ségolène Royal. C'est une forme de démocratie d'avoir fait ces primaires-là. Alors ce qui était un peu surprenant, c'est ces fameux 1 euro. On se rend compte qu'ils ont fait quand même un chiffre. Voilà, alors quel sentiment vous avez par rapport à ça en deux mots?
Moi, il me semble qu'on a oublié les primaires qui ont précédé la primaire socialiste. C'est la primaire d'Europe Écologie Les Verts.
Elle était peut-être moins médiatisée.
Sans doute moins médiatisée, vous avez raison de le souligner. Mais en tout cas, ça a été la première réalisée en France, avec quatre candidates et candidats. Donc on a fait l'expérience d'une primaire à laquelle ont participé, je crois, 30 000 électeurs et électrices. Ça a été une réussite, ça a été un bel exercice démocratique. Le Parti Socialiste, avec d'autres moyens financiers, vous l'avez souligné, et d'autres moyens médiatiques, a aussi, on peut le dire, réussi sa primaire. Et je l'espère, redonner goût aux Françaises et aux Français à s'intéresser à la vie publique.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de trouver, avant le premier tour, un accord avec les socialistes? Eva Joly et François Hollande pourraient, avec les deux parties, concertation des deux parties, s'associer pour justement faire une force beaucoup plus importante contre les autres candidats? Ou est-ce que, pour l'instant, dans le premier tour, on reste séparés? Parce qu'après, il y a beaucoup de candidats. Là, il y a 10 candidats actuellement déclarés. C'est énorme pour un premier tour.
C'est énorme pour un premier tour, mais l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure dans l'organisation politique de notre pays. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en tout cas dans le nôtre, c'est ainsi. Donc on voit mal comment les écologistes ne pourraient pas être présents à l'occasion d'un tel événement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que parmi nos amis, notamment je pense à notre ami Danny Cohn-Bendit, lui suggérerait depuis le début peut-être de s'orienter vers un accord politique avec le Parti Socialiste qui irait vers une candidature commune qui serait plutôt socialiste. Une telle éventualité n'a pas été retenue puisqu'elle nous a tenu nos primaires et aujourd'hui on se tient en tout cas à l'engagement que l'on a pris. Vous savez, l'élection présidentielle, elle a lieu dans
7 mois.
Dans 7 mois. Quand on voit l'ensemble des crises qui sont derrière nous, mais qui sont devant nous, la gravité des situations financières, économiques, sociales, mais aussi écologiques, l'importante dégradation de la vie sur la planète, je crois qu'il y a aussi des événements qui vont peut-être nous rappeler davantage encore qu'on a besoin d'écologistes pour cette élection présidentielle et notamment d'une candidate écologiste.
Vous pensez qu'Eva Joly aura cette carrure-là par rapport à Nicolas Hulot ou Daniel Cohn-Bendit qui sont peut-être plus médiatisés, qui ont peut-être plus de poids et plus connus par rapport aux Français et aux Françaises?
Moi, je me rappelle que lors des élections européennes, lorsque Eva Joly a rejoint les Verts, puisque c'était les Verts à l'époque, ça a été un véritable coup de tonnerre. Et ce qui a permis à faire entrer quand même au conseil régional d'Île-de-France une quarantaine, 40, 42, 51 élus régionaux Europe Écologie Les Verts. Donc je crois qu'on est toujours sur cette dynamique. Il est temps maintenant effectivement de relancer la campagne d'Eva Joly, donc que les médias accordent toute la place à l'ensemble des candidats qui se positionnent pour cette élection présidentielle. et ne favorise pas peut-être les deux candidats présupposés finalistes de l'élection présidentielle.
Voilà, en 30 secondes, parce qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs d'RCF qui sont un petit peu déçus ou qui n'ont plus confiance en la politique? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'ils regagnent espoir et qu'ils se déplacent aux urnes au mois de mai prochain?
Bah écoutez, moi j'aimerais dire, parce que je tire l'expérience de mon mandat de conseiller régional et des 18 élus Europe Écologie Les Verts que nous sommes à la région, et aujourd'hui nous nous félicitons d'avoir pris un certain nombre de délibérations en étant aux commandes, notamment sur la biodiversité, notamment sur la réhabilitation thermique et comment elle génère de l'activité économique. Nous sommes aussi intéressés par du développement économique, contrairement aux idées répandues que les écologistes ne seraient pas intéressés par cette question-là. Nous intervenons, nous avons aussi réussi à faire voter une délibération pour sortir du nucléaire sur la région PACA. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il est important de faire valoir les valeurs que chacun d'entre nous porte. Donc, je pense, et alors, une chose aussi importante pour moi, c'est la place des femmes, parce qu'aujourd'hui, les écologistes sont vraiment bien représentés par les femmes, et je pense que on arrive sur un siècle où il est important que les femmes soient dans la sphère publique et prennent part aux décisions et aux lois qui sont votées, justement parce que je pense qu'elles ont ce souci de la préservation de la planète, d'un mieux vivre et d'un mieux être pour tous les êtres qui peuplent cette planète. Et donc, moi, je les encourage à réellement s'engager au moment des présidentielles, à pas faire un vote utile, mais plutôt aller défendre les valeurs, et notamment celles qui sont portées par Eva Joly, avec tout ce qu'elle sous-entend de travail aussi sur la fiscalité, sur les paradis fiscaux en plus, et sur redonner un peu de pouvoir démocratique aux hommes et aux femmes de la France.
Voilà, ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On aura l'occasion certainement d'ici les présidentielles de vous réaccueillir dans nos studios d'RCF. Les programmes continuent sur notre antenne. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de prochains rendez-vous politiques. Au revoir.
Merci.
Au revoir.